Vous écoutez une pastille de cinéphile de notre temps.
J'ai choisi une scène de Cairo, de Kiyoshi Kurosawa, qui est un film que je pense avoir découvert à la télévision, pour le coup, que j'ai vu en salle très tard, que j'ai pu programmer sur une copie 35 mm, et je pense que c'est là où je l'ai vu la première fois en salle, donc quasiment plus de 10 ans après l'avoir vu, et que pour le coup c'est un film que j'ai beaucoup vu, ça fait partie de mes films préférés. Et la séquence que j'ai choisie, je pense qu'elle se place à peu près aux deux tiers, à la moitié du film, quelque chose comme ça. Un personnage, alors, donc c'est, faut que je donne un peu le contexte du film, j'imagine quand même. Voilà, donc c'est un film dans lequel, pour aller très vite, les fantômes reviennent de l'au-delà, puisque l'au-delà, a priori, on ne le savait pas, mais fonctionne un peu comme un cloud. Et en gros, il est saturé, et les fantômes reviennent sur Terre via une sorte de virus informatique. Donc ça se passe dans un Japon contemporain de la fin des années 90. Comme souvent chez Kiyoshi Kurosawa, on est dans un monde qui est déjà fortement en voie de déshumanisation. Ça se passe beaucoup dans des bureaux, des bibliothèques, des grands ensembles, des lieux publics. Et c'est déjà très froid. Et en plus, quand on rajoute les fantômes et que du coup, peu à peu, on vide l'espace des êtres humains, on est dans un truc...
spectral.
Ouais, voilà, purement spectral. Et voilà, il y a tout un rituel pour faire apparaître un fantôme. D'abord, il faut traîner sur une espèce de site internet, de trucs de webcam super bizarre. Alors, en plus, à la fin des années 90, j'imagine que vu que c'était déjà une technologie encore un peu balbutiante, ça devait paraître vraiment extrêmement tordu comme film. Alors qu'aujourd'hui, en 30 secondes, on peut aller sur n'importe quel truc de cam. Sur nos téléphones, mais à l'époque ça devait être quand même vraiment zarbi. Et donc une fois qu'on a été sur ce truc, ça nous fait imprimer une sorte de manifeste, et en gros il faut aller condamner une porte avec une bande rouge, et c'est derrière cette porte que le fantôme va se matérialiser physiquement. La scène que j'ai choisie, c'est donc une scène d'apparition. Il y en a plusieurs tout au long du film, mais celle-ci elle est extrêmement traumatique, parce que je la trouve absolument terrifiante. C'est une des scènes qui me fait le plus peur au cinéma.
Et c'est ton film préféré.
Et c'est mon film préféré. Et en même temps, c'est un film que j'adore, alors que il y a beaucoup de films d'horreur que j'aime, mais je les aime pas forcément parce qu'ils sont des films d'horreur. C'est un film que j'adore parce que je trouve que c'est un film qui utilise le genre pour dire des choses tellement fortes sur le monde, parce que je pense qu'au-delà d'un film d'horreur, c'est un immense film d'amour, et parce que j'ai appris avec ce film, et c'est des trucs qui sont confirmés plus tard dans la carrière de Kurosawa, notamment avec son film qui s'appelle Vers l'autre rive, qu'en fait les fantômes sont pas des monstres. Et déjà dans Cairo, les fantômes sont pas des monstres, ils tuent, mais ils sont juste le symptôme d'une société qui est elle-même le problème. Et donc ils font très peur dans Cairo, ils finissent par plus faire peur, notamment dans Vers l'autre rive. Mais c'est pas eux qui sont la force diabolique. Il n'y a pas de force diabolique, en fait. C'est ça, surtout, qui est très fort dans le film. Mais n'empêche que cette scène est absolument terrifiante. Et donc, on a un personnage secondaire qui voit une porte encadrée de rouge. Comme souvent chez Kurosawa, ça se passe dans une sorte de... Là, je pense que c'est à côté de l'immeuble d'un autre personnage. Donc, on doit être vaguement dans une espèce de cour, d'arrière-cour, de trucs bordéliques, d'entrepôts. Mais là, je pense qu'on est plutôt dans des espèces de trucs qui feraient HLM, quoi. Enfin, toujours chez lui, mais particulièrement dans Cairo, on est toujours dans des grands ensembles, des décors un peu post-industriels. Et donc, il voit une porte encadrée de rouge. Et lui, c'est un personnage qui ne sait pas ce que ça signifie, je pense, à ce moment-là du récit. Donc, il ouvre la porte. Il se retrouve dans une sorte de... ça fait très hall de chaufferie. Enfin, c'est une pièce toute bétonnée, toute froide. Et qui, j'imagine, doit avoir une espèce d'odeur de renfermé. Enfin, il y a quelque chose d'assez fascinant, puisque le film pourrait presque être projeté en odorama, en fait. Enfin, c'est un film qui est tellement dans les glauques, dans les verres, qui devrait avoir une sorte d'odeur un peu rance, assez fascinante, et particulièrement cette pièce. Et en fait, au fond de cette pièce, il y a une peinture qui est quelque chose qu'on revoit pas d'ailleurs dans le reste du film. Le manifeste qui s'imprime a un côté très graphique, mais c'est quand même de la calligraphie. Les fantômes eux-mêmes, quand ils disparaissent, laissent des taches au mur. Des taches, on dirait presque que Bacon a fait la direction artistique du film, parce qu'ils ont une espèce de taches glauques, un peu de moisissure noire. Mais là, on est quelque chose, c'est vraiment une peinture ce qu'ils voient, donc je sais. Est-ce que j'ai plus le film 100% en tête, mais
c'est une peinture rouge, on dirait que quelqu'un s'est fait tuer.
Visuellement, je vois, mais je sais plus si elle a un sens en fait à ce moment-là. Est-ce qu'elle a une explication narrative? Je suis même pas sûr.
Moi, en tout cas, je l'ai.
On parle de fantômes, mais on se rend compte que le sous-sol de la cinémathèque est hanté. C'est pas mal.
Non, mais c'est le souvenir de. En fait, le personnage se réfugie, enfin, essaye d'aller derrière, mm-hmm. et t'as l'impression qu'il se fait. En fait, c'est comme son sang qui se serait étalé. Ouais. Enfin, moi, je l'ai pris vraiment comme ça, comme. Il n'y a aucun sang, mais s'il était déjà mort, tu vois. Donc, et de manière horrible en plus.
De toute façon, le suspense de la scène fait qu'au moment où il passe la porte, en tant que spectateur, c'est un moment du récit où on sait déjà ce qui se passe derrière cette porte. C'est-à-dire qu'on a une avance sur le personnage, donc il y a la scène, c'est une minute de suspense où on sait quand même qu'il a fait une bêtise. Donc on a cette avance-là, et c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que la séquence, alors déjà elle a un découpage absolument incroyable, puisque donc la pièce est une sorte de couloir et la peinture est à l'opposé de la pièce par rapport à la porte d'entrée. Donc, il avance vers le fond de la pièce et je pense qu'il y a un champ contre champ où on voit le personnage avancer vers la peinture de dos. Et ensuite, on a le contre champ qui filme vers toute l'étendue du couloir. Et comme c'est une figure récurrente dans son cinéma, mais c'est particulièrement brillant dans Cairo, il y a un endroit sombre, il y a un recoin avec un coin d'ombre, et au bout d'un moment, on y voit une forme humaine, absolument impossible, en tout cas à la première vision du film, de savoir si c'était déjà là et on l'a pas vu parce qu'on n'a pas fait, qu'on regardait pas ça, ou si ça apparaît à un moment. Mais donc voilà, le fantôme apparaît là, et le fantôme va avancer vers le personnage, qui est donc à l'autre bout de la pièce, où il y a une peinture et devant un canapé. Et il y a cette particularité qu'en fait le fantôme est interprété par une danseuse qui fait des mouvements saccadés, extrêmement étranges et extrêmement perturbants. La scène est presque complètement silencieuse, en tout cas dans ce plan-là, dans le plan de l'apparition. Il n'y a quasiment pas un bruit. Il n'y a même pas le bruit qui serait peut-être absolument plus terrifiant s'il l'avait mis, qui est que ça a beau être un fantôme, ils sont physiques, donc le sol devrait crisser, surtout que c'est un sol en béton, et qu'elle a des mouvements en plus chaloupés, donc ce ne serait pas un son de pas régulier, mais un truc un peu à choper, qui... Heureusement que ce n'est pas dans la scène, parce que je pense que je ne pourrais même pas la revoir. Mais donc le fantôme avance silencieusement vers le personnage, et la caméra est placée derrière le personnage qui est derrière le canapé, avec le fantôme qui avance. Le fantôme avance, avance, avance. C'est toujours quasiment silencieux. Je ne sais même pas s'il y a un petit peu de son, peut-être du personnage qui respire, mais je ne suis même pas sûr de ça. Moi, j'ai l'impression que pour moi, il a complètement vidé le plan de son. Et au moment où le fantôme est à, je pense, 1 ou 2 mètres du personnage, la caméra fait un travelling vers le bas, donc le long du corps du personnage de victime, et passe sous le canapé, et alors que lui se baisse également, parce que plutôt que d'essayer de fuir, il a un espèce de réflexe primaire de peur, et il se met en boule derrière le canapé, donc la caméra le suit, et soudainement, on voit qu'il n'y a plus les pieds du fantôme. Et tout ça est dans le même plan, donc c'est déjà c'est une merveille de mise en scène. Ça te capture dans un point de vue qui est extrêmement malaisant, puisque t'es dans celui d'une victime qui fait un truc débile, comme souvent dans un film d'horreur. Mais en même temps, ça fait tellement peur, parce que c'est tellement pas habituel comme représentation de la peur. Ça ne fait pas de bruit, ça n'est pas particulièrement monstrueux ou difforme. C'est juste une femme qui a une sorte de robe noire extrêmement simple, unie. Mais c'est tellement perturbant. Et il y a ce truc que, donc tu dis, bon, alors elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu, enfin tout. Et puis en fait, tu vois, là, ça coupe et tu vois quand même un gros plan du visage de l'acteur qui relève vers. Et tu sais qu'en fait, elle va arriver par-dessus le canapé. En fait, elle a juste. C'est une question de timing. Elle est juste passée par-dessus le canapé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et il fait... Et c'est même pas un jumpscare, c'est ça aussi qui est génial dans la manière dont il fait peur, Kurosawa, c'est qu'on n'est jamais dans les gimmicks habituels, ou quand on est dans un truc un peu habituel, il va toujours trouver une manière de le détourner, de le faire autrement dans sa mise en scène. C'est-à-dire que en fait, on sait déjà qu'on va avoir l'apparition du visage du fantôme par-dessus l'horizon du canapé vu en contre-champ. Donc, plutôt que d'avoir un plan où ça fait boue, on a le plan du visage de la victime qui anticipe l'apparition. Et ça fait encore plus peur que juste un espèce de jumpscare avec un son tout pourri. Mais on a ce plan. Et là, en plus, il y a de la musique qui commence. Je pense qu'elle commence de manière peut-être discrète un tout petit peu avant, une fois qu'on voit plus les pieds. Mais en tout cas, ensuite, on a le plan en contre-champ du visage du fantôme, et ensuite, on a aussi le champ où on a le fantôme de dos qui se baisse sur la victime. Et là, on a une espèce de musique de chorale extrêmement spectrale qui monte jusqu'à ce que, voilà, on coupe, on voit pas ce qui va arriver au type, mais on se doute que... il est plus là. Mais je crois que la séquence est en plus extrêmement brève. Ça doit faire 1 minute 10, quelque chose comme ça.
Très court, mais...
C'est très très court.
C'est beaucoup trop long en même temps.
Mais voilà, moi la première fois que je l'ai vu, j'avais le souvenir d'un truc absolument interminable.
C'est physique en plus, même en tant que spectateur.
Ouais, c'est très physique.
Ça m'a crispé la première fois.
Et voilà, c'est un film que j'ai revu pas mal de fois. La scène, elle reste quand même très bizarre à regarder. Je l'ai trouvé beaucoup... J'arrive à apprécier sa beauté. Mais il a fallu quand même un certain temps. Mais voilà, c'est d'un minimalisme et en même temps d'une puissance en termes de mise en scène juste sidérant. C'est la matière dont les cauchemars sont faits, cette scène, quoi. C'est hyper marquant, quoi.